Soyez honnête avec moi. Si vous étiez dans un jeu questionnaire, moi, j'aime bien ça. Je sais que Jean-Simon aime ça aussi. Mm-hmm. Karen, je sais pas si t'es... Est-ce que t'aimes les jeux questionnaires, toi?
Oui, mais juste quand je connais les réponses.
C'est bon. OK. La première est assez facile. Moi, je l'aurais eu, celle-là. Mais pas la deuxième. C'est de ça qu'on va parler. Première question. Est-ce qu'on a déjà fabriqué des voitures au Québec?
Je crois que oui.
Ben oui, là, ouais. Peut-être que vous êtes jeune, GM à Sainte-Thérèse, pendant longtemps, il s'est fait des Pontiac, il s'est fait des Transam, Hyundai également.
Okay, alors, on a
fabriqué des voitures. On n'en fait plus, en passant. Okay. L'industrie automobile s'est concentrée en Ontario, ailleurs, mais au Québec, GM à Sainte-Thérèse, longtemps, puis Hyundai également, pour ne faire. Alors, je pense que j'aurais eu la bonne réponse. À la question, a-t-on déjà fabriqué un véhicule québécois, ici, dans la province? Je sais pas pour vous. Ouais, moi, ma réponse aurait été non. Moi, j'aurais dit, ben non. Okay. Non, on a fait des chars américains, des chars coréens. On n'a jamais fait. Il n'y a pas de chars québécois. Ce matin, je suis tombé sur un extrait d'Infoman qui est allé rencontrer Jean-René Dufaur, le député conservateur qu'on connaît bien ici, Gérard Deltel, qui est en train de bâtir, de rénover, de restaurer une manique. Savez-vous c'est quoi?
Ben, je connais le barrage, là.
Non, ben il y a aussi la chanson de Georges Nord, oui, en passant, qui est excellente, qu'on peut peut-être y entendre un peu, Jean. Hey, ça, c'est bon, ça.
Si tu savais comme on s'ennuie à la manie, tu m'écrirais bien plus souvent à la manie,
Ouagan. Bon, alors il y a cette manique-là, il y a justement le barrage manique, mais il y avait un char, moi honnêtement je l'ai appris là-dedans, il y a déjà eu un char fabriqué au Québec qui s'appelle manique. Il y en a eu comment c'est disparu, il en reste encore, regarde, des collectionneurs, des passionnés comme Gérard Deltel font ça. Pour en parler, on va aller rejoindre à l'instant Julien Amado, il est journaliste au Guide de l'Auto, puis... Il a participé, il y a une série là-dessus. Honnêtement, je l'ai manqué, mais je vais aller voir ça ce soir. On a du temps en masse. Sur Illico, il y a une série sur la voiture québécoise manique. Julien, bonjour.
Bonjour.
Comment ça se fait d'abord que c'est pas aussi connu que ça? Là, peut-être que c'est moi, là, vous allez peut-être dire, t'as manqué une belle histoire, mais j'ai l'impression que ça a été un peu oublié, l'histoire de la manique. Pourquoi?
Ah, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui a été complètement oublié, puis moi je vous dirais que j'ai fait ça en fait pour le Guide de l'Auto au départ, pour un reportage, et je me suis rendu compte de quelque chose de très simple, c'est qu'il y a 50 ans, presque jour pour jour, on pouvait commander une voiture québécoise chez le concessionnaire, puis se l'offrir, quelque chose qu'on peut évidemment plus faire aujourd'hui, puis je me dis, alors, comme ça il y a 50 ans, puis qu'on ne puisse plus.
Alors,
c'est là que j'ai découvert qu'il y a une voiture qui a été faite au Québec, sur une base de voiture française quand même, qui était une base de Renault. Puis, mais par contre, tout ce qui était la carrosserie, le design, tout ça avait été fait ici à Montréal, et puis ensuite à Green Bay. Donc c'est vrai que c'était intéressant de voir ça, et c'est pour ça que moi je suis allé rencontrer beaucoup d'acteurs de cette aventure-là, et c'est vraiment intéressant de constater justement que c'est des gens qui sont vraiment partis de rien à l'époque.
Qui est à l'origine de ça? Parce que évidemment, on connaît l'histoire des grands constructeurs automobiles, mais la manique, est-ce que c'est une compagnie? C'est-tu un ensemble d'individus? C'est-tu un inventeur, quelqu'un passionné qui a lancé ça? Qui est derrière ça?
En fait, au tout départ, c'est l'idée vient d'un homme qui s'appelle Jacques Abou, qui est une personne qui a eu une vie assez incroyable. Il est français d'origine et québécois d'adoption, mais il a vécu aussi au Japon, il a fait du judo. Finalement, il est arrivé au Québec. Et il est finalement entré chez Renault. Il a travaillé chez Renault, notamment pendant l'Expo 67. Et lui, son projet, c'était en fait de doter le Québec de sa propre voiture. Et comme on dit à l'époque de la construction des barrages et des barrages de la Manique, il y avait aussi Georges Dor à l'époque que vous évoquiez tantôt. Ben lui, il s'est dit, c'est le nom parfait pour un véhicule. On va l'appeler la Manique. Et donc, il a démarré d'abord une écurie de course en fait à Mont-Tremblant. C'était les tout débuts de Mont-Tremblant puisque la piste date de 64. Et ça, ils ont commencé ça en 68. Lui, il commença dans son garage, vraiment tout seul. Il a un garage à Longueuil, puis il a quelques amis avec lui, des amis proches, qui construisent des voitures de course, puis qui font rouler ça sur la piste. Il y a une commandite d'un cigarettier, des cigarettes gitanes à l'époque, qui aide la petite écurie, mais c'est très amateur. C'est vraiment très, disons, c'est balbutiant à cette époque-là. Et après ça vient l'idée de sortir une voiture de route. Et il utilise en fait ses contacts avec Renault pour utiliser une base de Renault 8, qui est une voiture petite berline à quatre portes, toute, assez classique somme toute, mais qui avait un moteur à l'arrière. Et lui, en fait, a décidé de la recarrosser, de la refaire différemment pour la transformer en petit coupé, en petite voiture sport. Et cette auto-là est présentée en 69 au Salon de l'Auto à Montréal. Et ben moi, toutes les personnes qui m'en ont parlé m'ont dit que ça avait fait une très forte impression à l'époque. Puis il y avait cette fierté de se dire, ben nous aussi, on est capable de faire de quoi ici au Québec, puis on peut avoir notre propre voiture.
Parlez-nous un peu de la manique, parce qu'évidemment, là, on l'a pas connue, ça remonte à longtemps. On n'a pas d'image. Vous avez dit, bon, ça vient peut-être de Renault au départ, mais elle ressemble à quoi? À quoi est-ce qu'on pourrait la comparer? Qu'est-ce qu'il y avait comme moteur en dedans, comme technologie? C'était quoi?
En fait, ce qu'ils ont repris de Renault, c'était le plancher, le moteur, puis les suspensions. Oui. Le moteur, c'est un petit moteur 4 cylindres. C'était un tout petit moteur 1.1 puis 1.3 litres. Il y avait deux moteurs disponibles à l'époque. C'est des moteurs qui faisaient entre 60 et 80 chevaux. Là, c'était quelque chose de pas très puissant. Par contre, c'est une voiture qui pesait seulement 100 kilos. Donc, c'était relativement performant pour l'époque. Puis, Jacques Duval, qui à l'époque s'occupait du guide de l'auto, c'est lui le fondateur, avait essayé la voiture en avant-première, bien sûr, puis lui avait considéré que les performances étaient correctes, comparées aux véhicules de l'époque. Mais pour vous demander, il y a des gens qui ont comparé l'esthétique un petit peu à la Porsche 911, parce qu'elle a deux phares, aussi elle a Lotus Europa, que peut-être les auditeurs connaissent moins bien, mais lui, ce qu'il voulait, en fait, c'était faire une apparence plus européenne à l'avant et plus américaine à l'arrière. C'était l'inspiration qu'il souhaitait obtenir. Et c'est un autre monsieur qui a designé la voiture, qui s'appelle Serge Soumille, qui aujourd'hui vit en France. Lui aussi était français d'origine. Puis il est retourné dans le sud de la France, où il vit toujours aujourd'hui, et il possède lui-même en France une des premières maniques qui ont été faites, un des premiers prototypes. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il possède toujours cette voiture-là 50 ans plus tard.
Aujourd'hui. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi l'aventure de la manique? Parce que s'il n'y en a plus aujourd'hui, puis les gens s'en souviennent plus ou moins, c'est parce que j'imagine ça n'a pas marché. Il y a beaucoup de défis pour quelqu'un qui veut lancer comme ça un véhicule. Mais grosso modo, pourquoi la manique? Pourquoi il n'y en a pas aujourd'hui?
Le principal problème qu'ils ont eu, c'est la fourniture des pièces. En fait, ce qui s'est passé, ils ont commencé à produire des voitures. C'était à la commande. Il y a eu des commandes qui ont quand même afflué. Les gens étaient intéressés par cette voiture-là. Le problème qui s'est posé, c'est que Renault ne fournissait pas à la demande. Donc, ils avaient de la misère à obtenir des châssis, à obtenir des moteurs, à obtenir des suspensions, parce qu'ils faisaient pas de très grosses commandes. C'était un petit partenaire d'affaires. Malheureusement, on peut pas savoir avec précision combien de maniques ont été faites, mais on chiffre à environ 160 véhicules. Tout compris, prototype plus véhicules qui ont vraiment été vendus. Donc, disons, ça fait pas beaucoup, en un peu moins de deux ans, c'est 160 véhicules, c'est ramené à ce que ferait aujourd'hui Ford ou GM, c'est rien du tout. Puis, le problème qu'il y a eu, en fait, c'est que les fournitures de pièces ne venant pas, c'était compliqué pour eux autres de construire les voitures. Donc, la voiture restant à l'usine, elle est pas livrée. Tant qu'elle est pas livrée, on n'a pas son argent. Donc, on a des problèmes de trésorerie. Puis, ces problèmes-là s'accumulant, comme c'était une petite société, on n'a pas non plus la capacité de se dire, bon, je vais attendre 5 ou 6 mois, je vais me revirer de bord, puis je vais pouvoir changer ma solution. Et comme en plus ça venait d'Europe, ça venait par bateau de chez Renault, mais de chez Renault en France, donc c'était compliqué. Puis malheureusement en plus, pour ne rien arranger, en 71, il y a la tempête du siècle, et ça a aussi retardé la livraison au port de Montréal. Donc c'est vrai qu'il y a eu aussi une combinaison de facteurs qui ont fait que malheureusement ça s'est arrêté en mai 71, et l'usine de Green Bay a fermé à ce moment-là. Et ça a été la fin de manique, malheureusement. Fait que après ça, il y a eu une période vraiment d'oubli. Et ça fait seulement quelques années qu'il y a vraiment un regain d'intérêt. Puis là, je vous dirais, depuis la publication de l'article du documentaire sur Helico, il y a un regain d'intérêt pour cette voiture-là. Et je dois dire que personnellement, j'en suis très heureux, parce que malheureusement, Monsieur Abou est décédé en 2013, donc il n'est pas là pour pouvoir le voir. Mais il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent de nouveau. Puis il y a des gens comme Monsieur Deltel, mais pas seulement, qui restaurent des voitures, qui essaient de les refaire vivre. Et c'est beau de voir qu'on participe à maintenir ce patrimoine-là.
C'est une partie de notre histoire. Dites-moi, est-ce qu'il en reste encore beaucoup? Puis combien roule celle qui est actuellement travaillée par Gérard Deltel? On voit qu'elle n'est pas encore prête à prendre le chemin, parce qu'elle a littéralement cassé en trois au début. C'est ce qui expliquait à Infoman. Mais est-ce qu'il y a des collectionneurs, des passionnés au Québec qui ont des maniques et qui roulent avec?
Oh oui, absolument. Il y en a plusieurs qui ont des maniques, dont certaines sont absolument magnifiques d'ailleurs, qui ont été refaites comme à l'origine. Et celle de M. Deltel d'ailleurs est prête là. Elle a été terminée très très récemment.
Ouais, Gérard Deltel m'écrit à l'instant qu'elle est retournée sur la route depuis le 22 mars dernier. Et il m'envoie des photos magnifiques.
Et il aurait pu vous le dire, mais elle est retournée sur la route 50 ans, jour pour jour, après sa sortie d'usine. Je vous dirais que M. Deltel a une des plus belles au Québec, vraiment. Il a fait dans le pur respect de l'origine, puis il a vraiment fait ça du mieux que c'était possible de faire. Et je dois dire que c'est une des plus belles que j'ai vues en photo. Je l'ai pas encore vue en vrai, mais c'est vrai que c'est une très belle auto. Je vous dirais, moi, quand j'ai commencé le reportage, on m'avait parlé d'une quinzaine en état de rouler, puis d'une trentaine de voitures environ. Mais là, plus les choses avancent, et plus il y en a qui reprennent la route, notamment celle de M. Deltel. Donc c'est certain que on pourrait, je pense, chiffrer aujourd'hui 30 à 40 véhicules au moins sur les 160 qui ont été produits. Après, peut-être qu'il en reste encore dans des granges ou dans des cours, on ne sait pas trop, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, il y a un marché
pour ça.
Encore.
S'il y a des gens qui nous écoutent, qui en ont, ben dites-nous-les parce qu'on voit qu'il y a un engouement. Julien Amado, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, bonne journée. Julien Amado est journaliste au Guide de l'Auto. Et il a également fait un documentaire que je vais m'empresser d'aller voir sur Illico. Je ne savais pas ça, que le Québec, oui, on a bâti des voitures américaines à Sainte-Thérèse, à Bromont, Hyundai, GM, mais qu'il y a déjà eu une voiture québécoise, la Manic. Je l'ignorais. C'est une partie de notre histoire. Il en reste encore un peu. Il y a des passionnés comme Gérard Deltel qui restaurent ça. Est-ce qu'un jour le Canada pourrait fabriquer une voiture? La Suède a un Volvo, a Saab, la Tchécoslovaquie a... C'est Skoda? Comment ça s'appelle?
Ça doit plus être la Tchécoslovaquie. Là, c'est-tu du côté de la République
tchèque? Excusez-moi de dire Tchécoslovaquie, mais ça date. Là.
C'est de quelle base, c'est ça?
Je pense que c'est Skoda, mais ils en font des véhicules. C'est pas si gros que ça. Il y a des pays plus petits que le Canada. Mais je pense que la proximité avec les États-Unis fait en sorte que notre industrie automobile va rester. Comment je pourrais dire ça, à la traîne. Mais il y a des Québécois autrefois qui ont eu le courage de se lancer là-dedans. Bon, ça n'a pas marché, mais la voiture, elle est vraiment belle. Je sais pas si vous avez vu
vraiment.
Photo.
Oui.
Elle ressemble à une Porsche. Moi, je connais pas ça, là, mais quand Julien a dit, certains la comparent avec la Porsche 911. Moi, c'est l'image que j'avais aussi en voyant la voiture de Gérard Deltel. Honnêtement, là, elle a fière allure.
Dubuc Motors à Saint-Augustin. C'est un Québécois qui a parti ça. Je sais pas, ils en sont où actuellement, là, mais c'était le véhicule, le Tomahawk. Et ça ressemblait avec des genres de portes de Lamborghini, un véhicule très, très sport.
Ouais, ça me dit de quoi, ça? Oui, mais je pense que c'était de quoi d'assez. Tu sais, c'était pas, comment je pourrais dire ça, c'était pas grand public, là.
Non, effectivement.
Je pense que c'est assez niché comme produit, là. Alors que la Manic, je pense qu'on visait, bon, ils en ont fait 160, mais je pense qu'au départ, on visait de quoi d'assez commercial. Alors que je pense que Tomahawk, c'est assez, comment je pourrais dire ça, là? C'est pas pour tout le monde.
C'est niché un peu plus de luxe.
Ouais, peut-être pour un collectionneur ou de luxe. Alors voilà sur l'histoire de la Manic. Si vous avez ça dans votre garage, manifestez-vous, c'est ça dans une grange. Moi, ça me fascine toujours. On a parlé beaucoup des trésors ici dans Bouchard en parle, les gens qui avaient de quoi, que ce soit des cartes, que ce soit n'importe quoi, avec on a parlé d'enchères récemment, tout ça. Fait que si jamais vous trouvez ça, je sais pas combien ça vaut. J'ai oublié de poser la question. Ça vaut combien une Manic? Ça doit dépendre évidemment de l'état dans lequel le véhicule est. Restaurer, c'est une autre histoire. Mais je sais pas c'est quoi la valeur 25226.
Tu vois, Gad, il y a une Manic qui s'est trouvée à Washington, OK?
Ouais.
À vendre, puis elle était affichée à 15 000 $ US. Ça, c'était en 2019.
Dans quel état?
Elle
roule ou elle est finie, là?
En très bon état, était fonctionnelle, là, en 2019. Était fonctionnelle, c'est ça. Puis il disait qu'il venait de changer les freins, tout le kit. Elle était rouge, celle-là. Et donc, elle était affichée à 15 000 $ US, donc à peu près 20 000 $ canadiens à l'époque. Là, je sais pas, elle s'est vendue à qui puis comment, là. Mais ça, c'était le 132e exemplaire assemblé selon le numéro de série qu'il y avait. Fait qu'on a quand même des informations là-dessus.
Ouais, mais je pense pas qu'un jour il y ait une production automobile québécoise à grande échelle. On est beaucoup trop proche des Américains. On s'est lancé dans les avions, c'est une autre histoire. Mais vous connaissez le fameux Arrow?
Arrow?
Non, ça vous dit rien?
Non.
L'avion de chasse canadien? À un moment donné, les Canadiens ont produit ce qui était probablement le meilleur avion de chasse au monde. Mais là, il y a toute une légende que les services secrets américains et les États-Unis n'ont pas toléré que les Canadiens produisent de meilleurs avions qu'eux, puis ils ont fait échouer le projet. Ça a donné lieu à une télésérie au Canada anglais. Il y a beaucoup de livres là-dessus. Faites juste taper Arrow.
Ben oui, dans les années 50.
Sur le web, il y a une tonne d'informations. Et de temps en temps, ça s'enligne vers les théories du complot un peu. Il faut faire attention. Okay. Il y en a qui prétendent vraiment que les Américains, la CIA, tout ça, a étouffé, a volé la technologie. Ils n'ont pas permis aux Canadiens d'être en avance. Puis, il y a tout un débat d'experts à savoir si vraiment l'avion était supérieur à tout ce qui se faisait dans le monde à ce moment-là. Mais ça vous tente, vous avez juste à taper « avion canadien Arrow », A-R-R-O-W. Vous allez voir qu'honnêtement, l'avion est belle, là. C'est ça, l'avion est belle?
Non, c'est
oui.
un
est
avion,
beau.
Est beau. C'est,
donc, l'avion est beau. Excusez. L'avion est beau, là. Allez voir.
Absolument.
Honnêtement.